arrive des chefs de synagogue nommés Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Mais comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita cum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Ce sont des beaux passages de la Bible que nous écoutons ce matin. Et notamment la première lecture, un passage du livre de la Sagesse qui dit très 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 clairement que Dieu n'a pas fait la mort. Voilà, ça commence comme ça. Dieu n'a pas fait la mort. C'est-à-dire, fondamentalement, la création de Dieu est bonne. Elle est orientée vers la vie. Elle est marquée par la bonté, par la vie. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. Quelle belle confession de foi, profession de foi en la bonté originelle de la création. Et l'auteur du livre de la Sagesse, la rédaction date environ du 2e siècle avant Jésus-Christ, continue en disant « Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité ». Alors peut-être que ça nous aide à mieux comprendre le geste que fait Jésus en prenant la main de cette jeune fille et en lui disant « Talita cum, jeune fille, lève-toi, lève-toi ». Le mot « lever » dans la Bible a un sens fort. Il est employé pour parler de la résurrection de Jésus aussi. Et donc, quand on nous dit que Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il y a à travers cela aussi une annonce de la résurrection, d'une certaine façon, hein. Et on nous dit le secret de la chose, au fond, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans la vie. Pardon, que la mort est entrée dans le monde. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Pas seulement la mort physique, peut-être aurait-il fallu mourir comme la Vierge Marie qui, elle, a été exemptée du péché d'origine, nous le montre à travers son Assomption. Peut-être aurait-il fallu faire un passage vers la gloire de Dieu. Mais en tout cas, la mort au sens spirituel provient du démon. L'enfermement de l'homme dans un non total et définitif à Dieu, ça vient du démon. C'est l'acte même, d'ailleurs, de refus du démon. Et Jésus dit clairement que c'est par le démon que la mort est entrée dans le monde. La mort spirituelle est aussi, en conséquence, une altération de la vie de l'homme telle que nous la connaissons aujourd'hui à travers la mort physique, à travers la maladie, à travers l'entropie, la dégradation, que sais-je, la vieillesse. Mais vous comprenez aussi que lorsque Jésus dit à propos de cette jeune fille, elle n'est pas morte, elle dort. Alors tout le monde rigole évidemment, mais Jésus a en arrière-fond cette certitude que, au fond, cette jeune fille vit. Elle n'est pas enfermée dans la mort spirituelle, elle vit, même si elle donne des signes cliniques de mort physique. Voilà. Jésus, plusieurs fois, parle de la mort en termes de sommeil. À propos de Lazare aussi, Jésus dit à ses disciples, « Je vais aller le réveiller. » Alors les disciples, qui ont un comprenait un peu dur, disent, « Ah ben, s'il dort, c'est qu'il va mieux. » Alors, c'est peut-être pas la peine d'y aller. Voilà. Vous comprenez, il faut rentrer dans l'Écriture, dans la Bible, pour bien saisir le sens profond des mots, qui sont comme des moules, qui nous transmettent le message. Alors, je voudrais peut-être terminer en soulignant combien le récit de Marc chapitre 5, ces deux guérisons que Jésus accomplit, sont imbriquées l'un dans l'autre. Vous avez remarqué, il y a un papa qui vient trouver Jésus pour sa fille qui est au plus mal. Il est chef de synagogue, il s'appelle Jaïr. Et puis, dans l'entrefaite, il y a une femme qui vient toucher le manteau de Jésus par derrière. Et on nous dit d'ailleurs dans les deux cas que, au fond, la jeune fille a 12 ans et que cette femme était atteinte de cette perte de sang depuis 12 ans. Une façon de faire écho à réfléchir. En tout cas, on s'excuse auprès des médecins qui sont dans l'assemblée. Ils sont ici vraiment noircis par Saint Marc, comme vous avez remarqué, qui souligne qu'elle avait beaucoup souffert des traitements de nombreux médecins, et puis elle n'allait pas mieux, elle avait dépensé tout son argent, et puis au contraire, son état avait plutôt empiré. Enfin, voilà, c'est la totale. Hein. Mais qu'est-ce qu'on aurait peut-être. Saint Luc, dans son récit, a évité ce genre de choses, parce qu'il était médecin. Alors, on aurait peut-être pu penser que. Si l'évangéliste écrit ça comme ça, c'est parce qu'il veut mettre en relief la façon dont cette femme va être guérie par un acte tout simple, qui est un acte de foi. Elle vient par derrière. Pourquoi ? Pour ne pas se faire remarquer. Pourquoi ? Parce que, atteinte d'une hémorragie, elle était impure, considérée comme impure selon la loi culturelle et religieuse de l'époque. Donc elle était bannie de la société quelque part. Donc elle n'avait pas à se trouver là. Donc imaginez, elle se ramène en catimini pour trouver Jésus et simplement, elle ne veut pas lui parler, simplement toucher la frange de son vêtement. Elle a la foi que Jésus peut la guérir. Et c'est ce qu'elle fait. Et aussitôt, elle est guérie. Et remarquez bien que Jésus ressent profondément qu'une force est sortie de lui et il va poser la question, ce qui va faire rigoler les disciples une fois de plus, il va poser la question, qui a touché mon vêtement ? Et les disciples disent, mais enfin, tu vois, tout le monde se bouscule ici, il n'y a pas la distanciation sociale, et comment peux-tu dire qui m'a touché ? Ben, tout le monde t'a touché. Non, Jésus cherche. Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire d'abord qu'il n'est pas médium, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il l'a touché. Il n'est pas rentré dans le psychisme de cette femme pour avoir leur enseignement. Jésus respecte l'être humain tel qu'il est. Et puis en même temps, qu'est-ce qu'il veut ? Il ne veut pas lui faire des reproches. Cette femme va venir toute penaude pensant recevoir un savon, mais pas du tout. Jésus va lui dire, « Eh bien, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. » Il la remet debout. À la jeune fille, il va dire, « Lève-toi. » À cette femme, il la remet debout physiquement et socialement. Il la réintègre dans la société et par sa guérison. Et voyez la grande bonté de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, il l'a dit lui-même. Et les gens le comprenaient bien parce que souvent, on sentait qu'une force de vie sortait de Jésus et les guérissait tous, comme écrit Saint-Luc. Alors c'est très beau. Ces deux récits qui sont imbriqués l'un dans l'autre, et la façon dont Jésus, précisément, attend la foi, et quand il voit, en arrivant chez Jaïr, qu'il y a les pleureuses qui sont là, vous savez, les pleureuses en Orient, c'est pas rien, ça fait du bruit, c'est les pleurs officielles quand il y a un décès, et il met tout le monde dehors, à dégager, et il veut rester simplement avec les parents, et puis les trois disciples qu'il a amenés, pour leur montrer... Voilà, qu'il va non pas ressusciter cette jeune fille, c'est pas la résurrection, il va la rappeler à la vie. La résurrection, c'est autre chose, c'est entrer dans un monde nouveau avec un corps glorieux. Ce ne sera le cas d'aucune des personnes que Jésus a rappelées à la vie, ni Lazare, ni cette petite fille, ni le fils de la veuve de Naïm. Mais en même temps, c'est une grande annonce de la résurrection. « Jeune fille, je te le dis, lève-toi, talita cum. » C'est ce que Jésus dira à toute l'humanité à la fin des temps quand il viendra pour la résurrection de la chair. Il nous ressuscitera tous. C'est une annonce de la résurrection qui nous est proposée ici à travers cet épisode. Et cependant, tout est fait dans la simplicité avec des choses vraiment très ordinaires. Vous savez ce que Jésus dit à la fin ? Il dit... elle doit avoir faim, donnez-lui à manger. Voilà, ça nous remet les pieds sur terre. Il ne s'agit pas de fabuler dans des sphères stratosphériques, mais vraiment d'être attentif aux besoins concrets de chacun. C'est ce que fait Jésus pour cette jeune fille et pour chacun de nous. Il est avec nous, il s'occupe de nous.